Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, les plantes génétiquement modifiées, OGM, suscitent la polémique selon les pays où ils sont exploités. Une polémique qui oppose les pro et anti-OGM à travers deux problématiques. Les potentiels risques pour notre santé, que nous n'aborderons pas ici, mais que vous retrouverez dans une précédente émission en compagnie de Louis-Marie Houdebine et Joël Guillemin de l'Académie de pharmacie. Et puis, les potentiels risques environnementaux, agronomiques et économiques. Deuxième problématique que je vous propose d'aborder ici, en compagnie de nos deux invités, Michel Griffon et Georges Pelletier. Messieurs, bonjour.
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 Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Georges Pelletier, vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRA, chargé de programme biotechnologie bioressources dans les investissements d'avenir, l'ANR, Agence nationale de la recherche, membre de l'Académie des sciences. Michel Griffon, vous êtes conseiller scientifique à l'ANR, Agence nationale de la recherche, ingénieur agronome et économiste, membre de l'Académie nationale d'agriculture. Vous étiez venu une première fois à Canal Académie. Nos auditeurs ont le plaisir déjà de vous entendre en compagnie d'Henri Léridon pour une émission sur la population mondiale et ses besoins alimentaires pour l'avenir. Voilà, la précision est faite. Je vous propose de commencer par quelques rappels de date pour montrer, si vous le voulez bien, la fluctuation des décisions politiques quant à l'exploitation des plantes génétiquement modifiées. La polémique autour des plantes génétiquement modifiées et de leurs potentiels risques environnementaux n'est pas nouvelle en France, depuis 1998 exactement, puisque c'est à cette date que sont autorisées pour la première fois de telles cultures de maïs transgénique, et la France devenait ainsi le premier pays à l'époque, premier pays européen, à cultiver les plantes génétiquement modifiées. Et puis 10 ans plus tard, en 2008, le gouvernement français interdit la culture du maïs Monsanto, MON-810, en invoquant la clause de sauvegarde, suivant ainsi l'avis de la haute autorité sur les OGM. La même année, le maïs génétiquement modifié est finalement de nouveau autorisé en France. Donc on n'autorise plus, on autorise. Et puis, en mars 2012, patatras, après plusieurs hésitations et dans un contexte de politique qui n'est pas neutre, puisque nous sommes en période électorale, le gouvernement interdit de nouveau la culture du maïs MON-810 sur le territoire national, afin, je cite, de protéger l'environnement. C'est ce qu'on peut lire sur le site du ministère de l'Agriculture. Alors une précision tout de même, mais ces interdictions ne concernent pas les plantes génétiquement modifiées qui sont cultivées dans le cadre de la recherche. Cela concerne uniquement les plantes cultivées à des fins commerciales. Alors voilà une introduction un peu longue, je suis désolée, Georges Pelletier, Michel Griffon, qui permettra, j'espère, de comprendre à quel point les contours de la législation sont variables autour des plantes génétiquement modifiées en France. Une observation peut-être pour commencer, Georges Pelletier et Michel Griffon, sur ces avis contradictoires qui provoquent, j'imagine, l'inquiétude dans le public et qui pourraient faire penser aussi à une lutte d'influence entre l'industrie des biotechnologies d'une part et les associations militantes d'autre part. Georges Pelletier, pour commencer.
Oui, vous avez rappelé les péripéties de la culture des plantes transgéniques en France. Vous avez omis au départ de parler du fait que la France a été le premier pays au monde à expérimenter des plantes transgéniques en 1986, avant les États-Unis. Et pendant la période 86-97-18, la France a été, on peut dire, compte tenu des proportions de sa recherche par rapport à la recherche mondiale, a été parmi les premières nations à expérimenter, à créer des plantes transgéniques sur différentes espèces. En 96-97, il y avait une centaine d'essais dans les champs en France qui étaient possibles. Et de façon concomitante, on a eu cette diminution, enfin cette interdiction de fait de plantes transgéniques et aussi la disparition finalement de la recherche sur les plantes transgéniques et parce que les essais au champ ont été, à partir des années 2000, pratiquement impossibles pour différentes raisons, destruction et retrait des acteurs, disparition des acteurs de la recherche publique et retrait des acteurs de la recherche privée qui, devant ces destructions, sont partis à l'étranger faire leurs essais en Inde ou aux États-Unis. Donc on vit deux choses. Une chose qui est inquiétante sur le long terme, c'est-à-dire que la recherche a pâti de cette situation. Et une deuxième chose qui est sur le court terme, qui est l'impossibilité pour les agriculteurs qui le désirent de cultiver certaines plantes transgéniques, et en particulier l'histoire récente, c'est le maïs qui contient la construction Monsanto 810, les maïs, parce qu'il y a quelques centaines de variétés autorisées en Europe pour cette culture, dont les agriculteurs qui ont envie de les cultiver ne le peuvent pas. Alors je rappelle quand même que l'intérêt pour l'agriculteur de ce type de maïs, c'est un intérêt économique, c'est-à-dire qu'il y a environ une centaine d'euros à gagner ou à ne pas dépenser à l'hectare en cas d'infestation par les insectes correspondants. Non seulement il n'a plus besoin d'utiliser des insecticides ou d'autres méthodes, mais qui sont plus onéreuses, mais de plus, ces maïs sont clairement plus faciles à utiliser, en particulier dans l'élevage des volailles. Anecdote, une délégation de producteurs de maïs français est allée au Maroc, toute fière de pouvoir proposer aux Marocains des maïs non OGM, et on leur a répondu, bah écoutez, ça ne nous intéresse pas parce que nous préférons les maïs OGM d'Espagne. Nous sommes sûrs au moins qu'ils ne contiennent pas de mycotoxines.
Alors, on va revenir sur tous ces points qui sont discutés, mais comme ça, ainsi, on va pouvoir avancer. Michel Griffon, juste, effectivement, Georges Pelletier a abordé aussi cette question un peu médiatique de l'arrachage de champs de maïs transgéniques, puisque en France, ce sont des maïs qui sont transgéniques. Est-ce qu'on assiste vraiment à un clivage politique entre les pro et anti-OGM, alors que peut-être il faut envisager les choses différemment et ne pas diviser ce sujet-là en pro et anti, pour ou contre.
Bien, en fait, on assiste, pour les sociologues, à ce qu'on appelle un fait social total. Dans les grandes largeurs, c'est un cas de conflit absolument magnifique, mais désespérant. Désespérant parce que dans une société moderne du 21e siècle, une société très scientifique, on a un conflit classique, judiciarisé, c'est-à-dire que toute parole est susceptible d'être retenue contre celui qui la prononce, ce qui fige le débat, le rend encore plus conflictuel. Il y a des alternances entre l'abstention du monde politique et son irruption dans le dossier, alors que le monde politique doit trancher en permanence. Il y a bien sûr une caisse de résonance qui est la société, qui a peur. J'ai entendu sur un marché quelqu'un qui achetait des poireaux et qui disait « j'espère que les poireaux ne sont pas génétiques ». Il y a une sous-information du public, donc les conditions sont idéales pour une mésentente, un climat de conflit, et c'est notre devoir de scientifique d'essayer de clarifier les choses, et il va falloir détricoter ce conflit pour le mettre à plat et trouver des voies de solution, parce qu'on ne peut pas rester dans une telle situation, c'est pas décent.
On va aborder justement tous ces points qui font débat. Georges Pelletier, vous l'avez déjà un peu abordé. On va revenir en détail sur donc ces plantes génétiquement modifiées. Il y a des questions qui sont soulevées, bien sûr, au niveau de l'environnement. Et notamment la question de la dispersion des gènes dans l'environnement et le potentiel risque d'un déséquilibre pour l'environnement. Alors, j'aimerais savoir, Georges Pelletier, si ces plantes génétiquement modifiées peuvent se reproduire et se disperser et donc distiller des gènes après dans la nature, et quels sont ces risques ?
Il s'agit de maïs. Le maïs ne se croise sous nos climats qu'avec le maïs. Il n'y a pas d'autres espèces, et l'espèce d'origine, le théosinte, qui est un maïs sauvage, n'existe pas chez nous, seulement présent au Mexique. Alors, le maïs se croise facilement et à relativement longue distance avec d'autres plantes de maïs. Et le risque qui est invoqué, c'est que les gènes en question, que l'on peut détecter par des méthodes de biologie moléculaire, peuvent, par hybridation, venir féconder des maïs qui ne sont pas eux-mêmes génétiquement modifiés. Et en particulier, dans certains types d'agriculture, comme l'agriculture biologique, il y a une contestation des OGM parce que les agriculteurs biologiques excluent absolument la présence de transgènes dans leurs produits.
Oui, j'imagine que ça change aussi, ne serait-ce que du point de vue économique, des cultivateurs qui se lancent dans le bio s'il y a à côté des champs transgéniques.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une décision qui leur appartient et qui n'est pas universelle. Dans d'autres régions d'Europe, les conditions ne sont pas les mêmes et les agriculteurs bio d'Allemagne, par exemple, se contente d'un seuil de 0,9% pour dire qu'il est possible de cultiver donc leur maïs bio à proximité. Alors à proximité, c'est quelques centaines de mètres ou dizaines de mètres, ça dépend des conditions environnementales, de la topographie, etc. Donc c'est le problème de la coexistence. Par contre, pour ce qui concerne la reproduction du maïs, les variétés de maïs qui sont cultivées en France, pour plus de 95%, ou si ce n'est plus, je ne sais pas, sont issues de production de semences qui, elles-mêmes, est contrôlée. C'est-à-dire que les récoltes ne sont pas ressemées. On refait des semences tous les ans. Donc le contrôle de la production de semences exclut la présence de transgènes dans des variétés qui ne voudraient pas être transgéniques.
Mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple, je me tourne vers vous, Michel Griffon, mais je sais que M. Pelletier aura certainement des choses à dire, justement, de faire en sorte que ces graines, ces semis, ne soient pas reproductibles. Comme ça, ça limiterait les risques de dispersion de gènes. C'est un terme, alors, bien sûr, qui peut prêter à polémique, qui a été nommé par Greenpeace, qui est dit technologie dite Taminator, où, justement, ces graines, ces semis ne seraient pas reproductibles. Est-ce que ce serait une solution envisageable, Michel Griffon, ou pas spécialement ?
C'est joli au plan théorique, mais là, vraiment, pour le coup, ce serait quand même assez dangereux de libérer dans la nature des gènes qui interdisent la reproduction d'une plante.
Ça limiterait aussi, après, les potentielles dispersions dont faisait part
Oui, bien sûr, mais il y aurait peut-être cette vertu, mais qui est, à mon sens, minuscule par rapport au risque. Là, on parle du maïs et de l'hybridation entre maïs, mais il y a, bien sûr, il y a des plantes dans lesquelles, par exemple, les crustifères, donc le colza est concerné, où il peut y avoir passage au sein de la même espèce d'un transgène. Donc, cette capacité de dissémination, il faut l'avoir au cas par cas, famille par famille. Ce que disent les anti-OGM et qui, à mon sens, doit être écouté, c'est le fait qu'un transgène se généralise à l'échelle d'un continent ou de la planète tout entière. Il faut veiller à ce qu'il y ait le maintien de la diversité. Alors, dans beaucoup de cas, il y a dilution dans l'environnement, mais lorsque, effectivement, des plantes transgéniques deviennent très majoritaires dans un continent en particulier, c'est vrai qu'on peut un peu s'interroger sur les conséquences que ça peut avoir. Mais enfin,
on peut craindre,
tout cela n'est peut-être analysé qu'au cas par cas.
On peut craindre, justement, un appauvrissement des espèces.
J'aime pas le mot « craindre », parce qu'il fait appel à la peur, et dans ce dossier, il faut éliminer la peur. Il faut remettre la science au premier rang. Moi, je ne crains pas un appauvrissement des espèces, mais une sorte de monopole. C'est une critique plus générale que je ne fais pas qu'aux OGM. Je fais à la conception, entre guillemets, formule 1 de la recherche en génétique. Nous nous apprêtons très vraisemblablement à aller dans un monde dans lequel il y a de plus en plus de variabilité climatique. Il y a aussi la nécessité de faire parler la variabilité des territoires, la variété des territoires, leur hétérogénéité. Et il me semble, en tout cas c'est une voie de recherche dans laquelle l'Agence de la recherche s'oriente, et avec un grand succès d'estime de la part des chercheurs qui répondent aux appels d'offres, il faut aussi avoir une conception de variétés qui soient des populations, c'est-à-dire qui soient des variétés variées au sens génétique elles-mêmes. Donc c'est jamais avec un grand plaisir que moi je verrais une variété de maïs envahir la planète, une variété transgénique de maïs envahir la planète, de même qu'une seule variété de maïs qui ne soit pas transgénique envahir la planète.
Il y a, je pense, une vision qui n'est pas la réalité concernant les plantes transgéniques et les transgènes. Il y a ce qu'on appelle les événements de transformation. Donc par exemple, on parle de Monsanto 810, c'est un événement de transformation, c'est l'insertion d'un gène qui vient de Bacillus thuringiensis, qui produit une protéine qui intoxique les chenilles de l'épidoptère. Bon. Aux États-Unis, il y a plusieurs milliers de variétés de maïs différentes, adaptées chacune aux conditions locales qui contiennent ce gène. C'est un peu la même chose en Inde sur les variétés de cotonniers. Il y a presque un millier de variétés de cotonniers différentes, mais qui ont quelques événements de transformation qui se comptent sur les doigts de la main. Donc il y a une chose qui est uniforme, c'est l'événement de transformation, c'est le gène, mais il y a une chose qui est très diverse, c'est les variétés dans lesquelles on les introduit. Et c'est un des avantages, à mon avis, moi, en tant que généticien, que je vois à la transgénèse, c'est qu'il est possible de maintenir toute la diversité des variétés tout en introduisant un caractère supplémentaire qui est intéressant, quel que soit l'endroit où on le cultive. On a des exemples de ce genre dans la sélection traditionnelle. On a des blés qui sont résistants à certaines maladies, qui contiennent des gènes venant d'espèces sauvages qui ont été introduits par croisement. Et 50% des variétés de blé ont assimilé, si l'on peut dire, ce gène depuis une cinquantaine d'années. A contrario, quand on a des espèces pour lesquelles on aboutit à quelque chose de satisfaisant À partir d'une construction génétique extrêmement compliquée, on a ce qu'on appelle des variétés, on a à la limite, on a ce qu'on appelle des clones. C'est l'exemple par exemple de la vigne. On reconstituera difficilement un merlot. Et donc on cultive le merlot qui est le même depuis des siècles, ou le cabernet qui est le même depuis des siècles, et on ne sort pas de là. Et donc, en conséquence, au niveau français par exemple, le nombre de clones de vignes utilisés se compte presque sur les doigts de la main. Donc la diversité génétique est plutôt nulle. Donc il faut bien voir les deux choses. D'un côté, le transgène, et de l'autre côté, la possibilité justement de multiplier les variétés.
Voilà. Donc ça, c'était sur justement la question des l'appauvrissement des espèces. Alors un autre point que vous avez soulevé, Georges Pelletier, en préambule, c'est justement qu'on pourrait limiter les apports en pesticides, en produits phytosanitaires, en règle générale. Maintenant, et très rapidement, avant de marquer une pause, je voulais vous faire réagir, donc, comme je vous le disais, à cette affirmation de Gilles-Éric Serralini, qui est professeur de biologie moléculaire et auteur de OGM, Le vrai débat, aux éditions Flammarion, qui écrit que 99% des plantes OGM sont des plantes à pesticides parce que pour résister à de tels produits, elles doivent en contenir elles-mêmes pour y résister. Alors j'aimerais que vous puissiez...
Bon, alors il mélange tout, là.
Oui.
Il mélange absolument tout.
Alors expliquez-nous.
Donc, il y a, grosso modo, trois types de plantes transgéniques actuellement cultivées dans le monde. Les premières sont résistantes à un ou un autre herbicide. Donc, ça permet de les cultiver en détruisant les mauvaises herbes. Deuxièmement, des plantes qui sont résistantes à des insectes. Bon, essentiellement des lépidoptères, bon, un petit peu des coléoptères, mais essentiellement des lépidoptères. C'est à partir de protéines issues de Bacillus thuringiensis. Et troisièmement, des plantes résistantes à des virus, que sont des courges ou des papayes, et qui sont obtenues en introduisant un des gènes du virus dans la plante, dans le génome de la plante. Bon. Les premières sont résistantes à un herbicide. Et comment on y arrive? On y arrive en modifiant le gène qui code la protéine cible de l'herbicide. Cette protéine cible de l'herbicide, dans le cas du glyphosate, c'est une protéine qui intervient dans la biosynthèse des acides aminés et qui est répandue dans le monde bactérien, végétal, etc., sauf animal. Et donc, des mutations de deux acides aminés dans la séquence de cette protéine suffit à les rendre résistantes au glyphosate. Alors, ce que l'on peut craindre, c'est que en traitant au glyphosate ces plantes qui y résistent, on retrouve dans ces plantes transgéniques des résidus du métabolisme de ce glyphosate, par exemple.
Mais, ce sont plus les résidus possibles que l'on peut retrouver.
Et dans le cas de, alors, dans le cas des plantes qui sont résistantes à des virus, je veux bien qu'on appelle un pesticide un gène de virus, mais bon, c'est de la responsabilité du biologiste moléculaire dont vous parlez. Et ensuite, les plantes qui sont résistantes à des lépidoptères contiennent un gène issu, dérivé d'une bactérie qui elle-même est un agent qui détruit les lépidoptères. Donc c'est le Bacillus thuringiensis, bacille de Thuringe, qui a été découvert au début du siècle et utilisé largement depuis 50 ans maintenant dans la lutte biologique par culture de la bactérie, production de spores en masse, en kilos ou en tonnes, de spores qui sont ensuite dispersés essentiellement par voie aérienne sur les forêts, par exemple, quand il y a des infestations de chenilles. Bon, c'est des choses qui sont utilisées depuis 50 ans. Alors, c'est un pesticide, entre guillemets, un pesticide biologique.
Alors, je vous propose de marquer une pause, si vous voulez bien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Sur Canal Académie, Jacqueline de Romilly dévoile son amour pour l'écriture et pour la Grèce. Elle est venue parler de son livre « Le sourire innombrable » et de sa traduction de l'historien grec Thucydide. Écoutez également nos chroniqueurs littéraires parcourir ses livres et commander les œuvres de cet illustre écrivain, membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions des belles-lettres.
Retour dans notre émission consacrée aux OGM dans l'environnement. Michel Griffon, je me tourne vers vous parce que je crois que vous êtes un peu agacé par justement cette présentation des OGM, d'être pour ou contre, pro ou anti-OGM, parce que, eh bien, comme vous allez pouvoir nous l'expliquer, il y a des OGM qui sont certainement très performants et d'autres, par contre, qui ne sont pas terribles. Alors, pourriez-vous nous donner quelques exemples, nous permettre d'y voir plus clair, justement, sur ces bons OGM et ces moins bons OGM?
Alors, je suis incapable, personnellement, d'être l'archange qui va déterminer avec l'ange des hautes balances en disant ce qui est un bon OGM et un mauvais OGM. Mais je me suis fait une liste de critères qui me permettent d'avoir une opinion pour autant que je puisse avoir toute l'information. Il y a un premier critère qui est un critère éthique, qui est la distance dans l'arbre de la vie qu'il y a entre le transgène et le réceptacle. C'est-à-dire que quand on fait une manipulation génétique entre une banane plantain et une banane dessert, c'est pas la même chose que de prendre un gène de poisson pour le mettre dans une fraise, pour reprendre un exemple célèbre. Du point de vue éthique, c'est pas la même chose. Il y a des gens que ça choque, il y a des gens que ça choque pas. Et il me semble qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y ait des gens qui soient choqués. Deuxièmement, il y a la notion de propriété. Lorsque un gène est une propriété d'un monopole privé, c'est pas du tout la même chose que lorsqu'il est la propriété, pendant la période de brevetage, de l'économie publique. Et comme économiste, j'ai toujours un peu froid dans le dos quand je vois des grands monopoles privés, parce qu'il n'y a pas de régulation de leur intérêt. Et l'intérêt général, je ne suis pas certain qu'il soit toujours pris en compte. J'aime bien aussi me poser la question de l'utilité du transgène. Utilité pour qui? Qui en bénéficie in fine? Est-ce que ce sont les producteurs? Est-ce que ce sont les consommateurs? Est-ce que ce sont uniquement les firmes? Comment se fait le partage des bénéfices? Un quatrième aspect qui est tout à fait intéressant, c'est: est-ce qu'il y a d'autres voies pour obtenir le même effet? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Est-ce que c'est une solution de confort ou est-ce que c'est une solution qui est, je le répète, totalement indispensable? C'est un argument qui pèse lourd dans le choix qu'on peut faire. Et puis il y a bien sûr les critères sur les conséquences qu'on peut éventuellement penser en termes de santé humaine, de santé animale, et sur la question environnementale plus générale. Et puis la question dont nous parlions un petit peu tout à l'heure, qui est la dilution ou la diffusion, qui est un critère qui est inséparable des autres. Alors quand on prend tout ça et qu'on regarde, il y a effectivement des OGM qui apparaissent comme totalement indispensables et plus que utiles. Et puis il y en a d'autres sur lesquels on peut se poser des questions. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'une instance transparente puisse noter chacun des critères, de façon à ce que chacun se fasse son opinion.
Alors, beaucoup de choses. On va parler de cette instance indépendante et transparente. Quelle serait donc, bien sûr, vous n'êtes pas l'archange, comme vous venez de nous dire, qui délivre les bons points, les mauvais points, mais justement, au regard de tous ces critères que vous nous avez listés, selon vous, quels seraient les plantes génétiquement modifiées qui remplissent ces critères d'éthique, de questions de propriété, savoir si effectivement tout le monde en profite au même niveau, si d'autres voies sont possibles pour arriver à ce résultat. Quels seraient donc ces quelques exemples d'OGM qui justement rempliraient ces critères?
Eh bien, dans une conversation justement un jour avec Georges Pelletier, nous avons parlé de résistance au virus des papayes. On peut vraisemblablement penser que s'il n'y avait pas eu un PGM papaye, les papayes auraient disparu de l'histoire de la vie. Donc dans ce cas-là, c'est à mon sens indiscutable. Lorsque, par exemple, on prend le critère environnemental et que l'on voit la substitution des cotons insecticides qui permettent d'éliminer des exploitations agricoles de l'Inde une grande partie des insecticides produits par voie de synthèse, ce sont des morts que l'on épargne. Parce que la façon dont ces pauvres gens utilisent les produits insecticides est vraiment tout à fait rudimentaire. Il y a beaucoup de gens, je les ai vus sur le terrain, qui sont aveugles. Il y a des gens qui sont morts. On peut leur attribuer la mort aux pesticides. Et bien évidemment, la solution PGM est économe en vie humaine. Donc ça pèse très lourd parce que certains pesticides sont responsables de graves dangers. Et je veux dire, je ne connais pas de mort qui soit imputable à un PGM. Voilà, donc, mais à contrario, lorsque en Amérique latine, on développe une agriculture avec des sojas ou des maïs qui sont résistants à un herbicide, il y a peut-être d'autres voies qui pourraient être utilisées. Et là, je pense qu'on peut vraiment discuter. Discuter ne veut pas dire prendre une position. Moi, je suis toujours prête à discuter parce que je n'ai pas, à titre personnel, toutes les informations sur chacun des cas. Ce qui veut dire qu'il faut bien qu'il y ait une instance nationale où se retrouvent tous les spécialistes et qu'il soit une instance de débat et de dialogue et à laquelle on confie sa confiance. Moi, je suis prête à confier ma confiance à une institution dont le rôle serait d'examiner au peigne fin tous les arguments et de peser.
Alors, venons-en, du coup, la transition est toute trouvée. Il existe en France depuis 2008 le Haut Conseil des biotechnologies. À travers ce que vous venez de nous dire, Michel Griffon, j'imagine que le Haut Conseil des biotechnologies qui existe depuis 2008 n'est pas tout à fait transparent et indépendant puisque c'est quelque chose que vous réclamez.
Oh, je ne suis pas là pour, là non plus, juger un Haut Conseil. Mais simplement, je voudrais faire une observation qui me semble de bon sens. C'est qu'un Haut Conseil constitué de deux parties, une partie scientifique et une partie avec les parties prenantes, très engagées dans le conflit. Je ne vois pas comment la partie engagée dans le conflit pourra arriver sereinement à des conclusions qui feraient l'unanimité.
Engagée dans le conflit, c'est-à-dire ?
Eh bien,
ce sont des lobbies.
Nous sommes dans un conflit qui n'a même rien de cornélien, qui est un conflit primaire. Mmh. Et donc on sait très bien quand on nomme les gens, les parties prenantes, ceux qui seront pour, presque systématiquement pour les PGM, et ceux qui sont presque systématiquement contre. Et donc l'équilibre général et les résultats seront tout à fait prédictibles. Donc ça ne me semble pas servir à bien grand-chose. Ce qui me semble absolument nécessaire, c'est qu'il y ait une instance de scientifiques, où on peut même se demander s'il est nécessaire d'avoir un haut conseil et s'il ne faut pas banaliser les discussions scientifiques dans le cadre de l'ANSES, qui est l'agence nationale dont c'est théoriquement la responsabilité.
Georges Pelletier, est-ce que vous partagez l'avis de Michel Griffon ou est-ce que vous avez un autre regard ?
Oui, moi je pense que, comme Michel Griffon, que la façon dont ce haut conseil a été imaginé ne peut mener qu'à, si on veut, un échec, si le but est d'arriver à progresser. Et la meilleure preuve, si vous voulez, c'est que les dernières décisions du gouvernement se sont appuyées sur autre chose que ce conseil des biotechnologies, ce haut conseil des biotechnologies. Donc c'est la preuve que même le gouvernement le trouve inutile.
Donc, quand vous parlez d'indépendance, j'imagine que vous parlez d'indépendance au sein d'un gouvernement. On revient à la question que je vous ai posée au départ, à savoir, ces questions-là sont-ils devenues le jeu unique de clivages politiques ? Michel Griffon.
Oh, c'est bien sûr, il y a des clivages politiques, mais l'indépendance, pour moi, c'est une indépendance intellectuelle. Et c'est ce qu'on est en droit d'attendre de scientifiques. À partir du moment... Moi, je vois à l'Agence nationale de la recherche où on a évalué des milliers de projets, les scientifiques qui évaluent ces projets... le font avec des listes de critères, ils le font en leur âme et conscience. On doit pouvoir le faire sans aucune pression politique, sans aucun préjugé, sur des dossiers qui sont les dossiers de plantes génétiquement modifiées. C'est ça pour moi l'indépendance, c'est une indépendance intellectuelle. Alors dès l'instant que tout est dans un champ d'aimantation politique, je répète, tout est prédictible, c'est-à-dire que la pièce de théâtre est écrite à l'avance, ce qui ne présente aucun intérêt. En tout cas, qui ne résout pas, qui n'est pas propre à résoudre un conflit.
Un autre point, justement, que vous avez évoqué au début de cette deuxième partie d'émission, c'est justement la nécessité de ne pas produire des plantes génétiquement modifiées, des PGM, dans le cadre d'un monopole privé, puisqu'il s'agit, selon vous, plutôt d'une question de sécurité alimentaire. Est-ce que vous pourriez préciser, justement...
D'abord, le monopole privé, on en a parlé. Oui. Moi, je préférerais que ce soit des entreprises de taille moyenne et qui soient en compétition. Simplement pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la génétique et qui sont des raisons purement d'hygiène économique de la concurrence. Et pour moi, c'est ça l'essentiel du point sur le monopole privé.
Et vous pensez que l'État aussi a un rôle à jouer ?
Ah bien, il y a des domaines dans lesquels les firmes ne s'aventureraient pas parce que simplement il n'y a pas de rentabilité potentielle à la clé. Et sauver, par exemple, une espèce qui serait atteinte par des virus, parce que dans l'histoire de la vie, les virus, c'est ce qu'il y a de plus incontrôlable. Et c'est ce qu'on sait le moins traiter, aussi bien pour les espèces animales, les humains, que les végétaux. De la même façon qu'en médecine, il y a des maladies orphelines, où la recherche publique se fait un honneur de les traiter, il me semble qu'on devrait avoir l'équivalent dans la recherche sur les plantes.
Dans les arguments donnés en faveur du développement de la commercialisation des plantes OGM, des plantes génétiquement modifiées, on revient toujours au même sujet qui est donc le développement des plantes génétiquement modifiées dans les pays en voie de développement, à savoir que eh bien, ça serait une manière pour eux d'avoir, de se garantir des greniers qu'ils n'auraient pas forcément tous les ans selon des années de culture. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Georges Pelletier. Est-ce que c'est un faux argument ou est-ce que c'est un argument recevable ?
Je pense que ça dépend ce qu'on appelle pays en voie de développement, mais les pays qui se développent bien en ce moment, comme la Chine, comme l'Inde, comme même le Brésil, ont des programmes de développement public, de recherche publique, sur les plantes génétiquement modifiées, beaucoup plus que dans les pays, disons, occidentaux. Bon, ceci arrive après évidemment le fait qu'ils ont subi, si l'on peut dire, au départ, un monopole qui a été le fait d'entreprises américaines qui ont mis les moyens pour obtenir ce monopole, les moyens financiers, les moyens humains, et qui ont recruté des centaines de scientifiques pour y arriver. Alors que, faut bien se rendre à l'évidence, dans la recherche publique, en particulier dans notre pays, on a plutôt baissé les bras et on n'a pas développé ce secteur dans la recherche publique. Et c'est évident que, comme disait Michel Griffon tout à l'heure, que pour un certain nombre d'espèces, les entreprises monopolistiques ne s'y intéresseront jamais. Ça n'est pas suffisamment rentable, ça n'est pas suffisamment commercialement rentable pour s'y intéresser. Et par exemple, la plupart des légumes moyens, si vous voulez, mis à part la tomate, qui est un légume très important économiquement, mais la plupart des autres plantes légumières ne sont pas traitées.
Alors, je pensais par exemple à la culture du riz dans des pays d'Afrique, où là justement, donc le riz, bien sûr, ça fait partie des cultures où on a besoin d'eau, donc il serait peut-être intéressant, oui ou non, de développer des cultures OGM qui seraient moins gourmandes en ressources en eau. Est-ce que là, c'est une vision recevable ou est-ce que, finalement, Michel Griffon, on se trompe un peu dans les arguments parce que ce n'est pas tout à fait la réalité, il y a d'autres choses qui compensent ces gains?
Alors, je dirais deux choses. D'une part, deux choses apparemment un peu contradictoires. La vitesse du changement climatique, le changement global, le fait que les molécules phytosanitaires sont de plus en plus condamnées, le fait que les engrais sont de plus en plus chers, etc. Tout ça fait que cette rapidité va à un rythme qui est beaucoup plus accentué que la capacité d'adaptation des plantes à ce changement. Et je pense qu'on aura besoin des OGM pour aller aussi vite qu'il y a de modifications du milieu général, aussi vite que le changement global. Et donc ça concernera inévitablement les pays en développement. Par ailleurs, je pense que c'est une erreur de considérer que les PGM sont la solution à la question alimentaire des pays en développement. Il y a tout autant à faire dans le domaine de la génétique qu'il y a à faire dans le domaine de l'agronomie et de l'écologie appliquée à la production, parce qu'il faut marcher sur deux jambes. Une plante qui serait une plante magnifique, adaptée à la sécheresse, un riz qui permet d'utiliser moins d'eau, qui résiste à un certain nombre de maladies, etc., qui serait une plante dotée de beaucoup de vertus, ne sert à rien si elle est dans un milieu qui n'est pas porteur. Et donc, il y a le paysage, il y a l'écologie, il y a l'environnement de la plante, et la plante elle-même, et il ne faut pas opposer l'un et l'autre.
Donc ça répond à une urgence de sécurité alimentaire, en d'autres termes. Les OGM répondraient à une urgence de sécurité alimentaire.
Enfin, pour moi, l'urgence de sécurité alimentaire, c'est de mettre tous les moyens de la science au service de la sécurité alimentaire. Et au sein de ces moyens, il y a des PGM, mais je ne mets pas les PGM au premier rang.
J'ajouterais aussi même le développement, les infrastructures, le développement des moyens de communication, oui, des routes, des choses comme ça. On ne va pas, comme disiez tout à l'heure, cultiver une plante magnifique au milieu d'un désert humain.
Dernière question qui s'adressera à tous les deux. Donc, je le disais en préambule de cette émission, en mars 2012 a été prise justement la décision de suspendre, de poursuivre la suspension de la culture du maïs Mont 810. Selon vous, est-ce que la culture des plantes OGM en France doit être à terme autorisée à des fins commerciales ou pas spécialement? Est-ce que vous suivez, vous, Georges Pelletier, cette suspension, ou au contraire, est-ce que vous ne la suivez pas? Et si oui, pourquoi?
Donc, je répondrai très rapidement qu'elles sont interdites pour des raisons politiques, pour avoir la paix dans les champs, et pas pour des raisons scientifiques. Mais je pense qu'à terme, on y viendra.
Vous voulez dire qu'on va revenir à une autorisation?
Oui, mais il faudra bien.
Il faudra bien, oui. C'est-à-dire?
Oui,
ça deviendra une nécessité.
Ça sera une nécessité. Je pense que, en particulier dans le cas présent, les agriculteurs sont éventuellement prêts à enfreindre la loi pour cultiver ce qu'ils ont envie de cultiver.
Reste à voir comment l'opinion publique, elle, prendra les choses, Michel Griffon. Comment voyez-vous cette...
Je pense qu'il faut juger au cas par cas. Et mon impression, c'est que plus nous avancerons dans le temps, plus il y aura nécessité de créer des PGM. Il y aura aussi des possibilités variées de faire des plantes avec, par exemple, la cisgenèse, c'est-à-dire au sein d'une même espèce et d'une même variété, prendre un allèle, en faire... Ce n'est pas vraiment une transgenèse, mais c'est une transgenèse au sein de la même espèce et au sein de la même variété. Et ça, de même que la mutagenèse est tout à fait quelque chose qui n'est pas de la transgenèse, il y a beaucoup de voies qui sont en train d'apparaître dans la capacité d'améliorer rapidement les plantes. par exemple la sélection assistée par marqueur, tous ces moyens scientifiques seront de plus en plus nécessaires pour adapter rapidement les espèces au changement global. Donc il ne peut pas y avoir une fatwa sur les OGM, il faut qu'il y ait des décisions au cas par cas qui soient prises dans un esprit scientifique et de responsabilité.
Donc les OGM sont une solution parmi d'autres et il faut que la recherche se poursuive justement sur ce que vous venez de nous dire, à savoir la cisgenèse.
Par exemple.
Je vous remercie d'être venus nous voir. Merci à tous les deux. Et puis, donc, j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site de Canal Academy. On vous retrouve notamment, Michel Griffon, avec une émission en compagnie d'Henri Le Ridan sur justement la question de la population mondiale et de la sécurité alimentaire dans le cadre de la démographie. Merci à vous et j'espère à bientôt pour une prochaine émission.
Merci. Au revoir.